Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission complètement farfelue où on parle de sujets qui vous intéressent plus ou moins, mais on vous en parle avec cœur et fermeté. Avec moi, Mélanie et Francis, comme à chaque semaine. Cette semaine, Mélanie va nous parler des gestes qui trahissent le mensonge. Je vous parlerai, je vous donnerai quelques astuces de cuisine et Francis va nous parler d'informatique. Mais avant ça, coup de cœur. Coup de gueule, coup de masse. Mélanie, qu'est-ce que tu as à nous dire?
Moi, je donne mon coup de cœur à ma fille, à ma relation mère-fille, à mon fils aussi, là, mais ça, c'est pas de ça qu'on parle, mais à ma fille qui grandit, qui devient une femme, que j'essaie d'accompagner en tant que nouvelle petite femme dans toute l'adversité, ce qui vient avec, mais dans tout le beau aussi, dans l'évolution dans laquelle on est, puis dans nos combats. Puis je la remercie de m'avoir prêté son chandail. Ah, elle voulait pas. Elle voulait pas, mais elle m'a prêté.
Moi, je vais donner un coup de masse. Hein. On sait quand on vieillit, ben on vient, tu sais, on entendait tout le temps ça, les vieux là, on est tout le temps en train de parler de nos bobos, etc. Mmh. Mais je donne mon coup de masse à mon intestin qui me fait royalement chier depuis plusieurs mois. Puis,
c'est le cas de le dire.
Puis, c'est ça. J'ai l'impression qu'on m'a traîné ça longtemps. Rien de grave, assurez-vous. Okay. Mais quand même, des désagréments, des choses que je ne peux plus manger. Puis, je trouve ça triste parce que j'aime manger, moi, dans la vie. Francis.
Coup de masse aux gens négatifs, aux gens colériques, aux gens qui chialent. Oui, on est un peu plus isolés. On vit des choses historiques, tout le monde le sait. Mmh. Donc, on a besoin de socialiser autrement, malheureusement, par divers appareils ou réseaux sociaux. On se fait contaminer de négativisme. Donc, voilà, coup de masse. Je serai négatif moi-même. Je t'aboute là.
Ouais.
Je suis plus capable.
Tu sais que tu as le libre arbitre de ne pas les lire.
Voilà, j'en ferai d'ailleurs une chronique.
D'accord. Bien, je te lance, Francis. Tu veux nous parler d'informatique. C'est tout ça que tu veux nous parler?
Exactement. Je vais en parler par la bande. Tout d'abord, je ne ferai pas une chronique sur des outils, sur des choses technologiques. On n'a pas une émission qui est en direct. Donc, je m'excuse du scoop que je vous mentionne à ma TV, Télé du Haut-du-Lac. On n'est pas en direct. Donc, voilà, si je vous annonce quelque chose, je vous parle d'un produit, ça devient obsolète dans un claquement de doigts. Et nécessairement, ce serait vraiment quelque chose qui ne serait pas opportun. Par contre, je vais vous parler... tout d'abord, les visios, les outils visio qui ont été développés, on en a parlé antérieurement déjà, j'y reviens. Ça a été quoi les plateformes que vous avez utilisées et quel plaisir avez-vous eu avec certaines plateformes? Parce qu'au départ, on s'entend que, bon, ce qui revient, c'est Meet, c'est Teams, c'est Zoom, c'est VIA, c'est, bon, vous en connaissez sûrement quatre autres, chacun que vous pourriez nommer. Et on apprend que c'est un art. Mm-hmm. Je vais nommer ça comme ça. Si vous avez une réunion entre amis, on le fait avec Pierre, avec nos amis. Si tu as 2 heures de rencontre sur Zoom, mettons, et que les premières 40 minutes, ça peut devenir cacophonique. Quand tu fais un « hum-hum », quand tu fais un « ouais »,
Tu manges des chips.
Quand il y a un son qui embarque sur le pendant que quelqu'un parle, que le son se promène, on se coupe. Donc ça, il y a une façon de faire qu'il faut apprendre, et ça, c'est pas toutes les plateformes qui sont égales. Il y en a qui sont plus complexes, qui demandent une inscription sur, par exemple, Google, Microsoft Windows, faut que tu aies un abonnement, donc ça te permet de te loguer. Ça a été extrêmement complexe, mais on commence tranquillement à devenir meilleur, même nos parents.
Absolument.
Je citerai ma mère qui, la première fois, on lui a dit « On ferait une petite rencontre pour se voir. » Ma mère est seule à la maison, ma soeur est à l'extérieur. Les premières fois, ça a été vraiment difficile de la convaincre.
C'était ça, la rencontre?
À peu près ça, finalement. Mais au final, ça a été quand même quelque chose d'intéressant et elle a apprécié, je pense. Ensuite, attention aux informations qu'on donne. On a tendance rapidement, on a besoin d'un outil technologique là, donc je vais aller inscrire mes informations pour calculer le nombre de fois qu'on va mettre nos informations pour un abonnement sur quelque chose, même si c'est gratuit, peu importe, je parle pas de donner sa carte de crédit pour acheter systématiquement quelque chose. Le nombre d'informations qu'on donne, qu'on éparpille un peu partout sur diverses plateformes, faut être prudent là-dedans. Gênez-vous pas pour parler à des amis qui s'y connaissent, qui peuvent vous conseiller. Et surtout, je finirai avec Facebook. Je vais parler de Facebook, j'en ai parlé dans mon introduction, c'est devenu un outil de contamination mentale atomique. J'ai réduit de beaucoup. Un, je ne mettais déjà jamais rien, ou très peu. Là, je ne suis pas quelqu'un qui publicise. Je mets des promos, quelque chose, télécommunautaire, je mets un petit post intéressant, je peux le partager. Mais personnellement, je mets jamais d'opinion là-dessus. Et quand je vois passer des trucs comme ça, ça donne le goût de se désabonner. Je pense à Matt Lévesque dernièrement, que j'ai vu un post qui a dit « Regarde, moi, excusez, je tire la plug pour un bout, je suis tanné. » Il y en a plusieurs, j'ai vu passer ça. Tirer la plug, arrêter d'utiliser, c'est une chose. Se désabonner, c'est autre chose. Et ça peut être extrêmement complexe. Si, admettons, vous avez à le faire et que vous vous donnez le mandat de le faire...
C'est compliqué, hein?
C'est très complexe. Voyons, je les ai. C'était pas à bonne page. Télécharger son fichier de données personnelles. Avant de t'abonner, avant de te désabonner quelque chose, va chercher tes informations, tes photos, tes fils de conversation. Va te les réapproprier avant de faire ça. Les informations de paiement que tu as pu faire éventuellement, l'historique de localisation, le numéro de téléphone, tes coordonnées. Donc, allez voir sur le site françoischaron.com. Je fais la publicité, là. Je ne sais pas si c'est gratuit, peu importe. Mais il y a moyen d'aller à des endroits pour faire les choses adéquatement. Je l'ai vécu dans le temps des fêtes. Ma mère, qui s'achète un nouveau cellulaire, ah, ben là, Facebook n'est plus dessus, donc je vais me repartir Facebook. Et là, on commence à recevoir des demandes d'amis. Là, je téléphone à ma mère, tu ne peux pas switcher ton Facebook comme ça. Le premier va être encore là. Fait. C'est une autre histoire, là. Une autre affaire de faire puis d'essayer de...
Vraiment, c'est une chronique sur ta mère.
Exactement. Donc, je te remercie, maman. J'espère qu'elle m'écoute. Ce serait agréable de savoir ça. Et finalement, dernière chose, on a, mettons, fait le ménage de nos appareils. Quand on utilise VIA, quand on utilise Google, etc., pas Google, mais Zoom, par exemple, pour des visios, au niveau du réseau, ça peut être extrêmement demandant. Un, dans les forfaits. Deux, dans l'Internet, dans la maison. Il se vend des amplificateurs qu'on peut placer dans des prises de courant et que passe pas par ta compagnie, j'en nommerai pas, mais de fournisseur Internet qui va te vendre, te louer un bidule à fort prix. Il se vend des petits appareils entre 25 et 30 $ que tu peux placer, qui va aller chercher le réseau dans ta maison et qui va l'étendre un petit peu plus. Ça fonctionne très bien dans différents secteurs de ta maison. Il va seulement amplifier le réseau. Je pense à, mettons, une grande maison. Toi, tu as une maison qui est assez grande dans différents secteurs. Ça se commande sur Internet facilement.
Non, achat local.
Achat local,
oui. Il y a une compagnie qui va le commander, tu vas le acheter.
Exactement. Attends, elle va chez ton commerçant, le plus près de chez toi qui te le commandera. De toute façon, c'est vraiment pas compliqué à obtenir. Et ça va amplifier le signal et finalement avoir une meilleure connectivité avec tes amis.
Merci, Francis. C'est très, très, très intéressant. La pandémie aussi nous a appris, ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, je cuisinais déjà pas mal, mais il me semble qu'on cuisine beaucoup plus parce qu'on est plus à la maison. Oui. Fait que ça arrive moins là, des repas de reste, de bord de comptoir qu'on fait avec n'importe quoi parce qu'on n'a pas le temps.
Ça arrive pareil.
Oui, OK. Moi, j'aime ça penser. Fait que là, je vais vous donner des petits trucs de cuisine, peut-être hein, que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Moi, il y en a que je connaissais, il y en a que je ne connaissais pas. Et des fois, ça peut aussi aider pour votre santé. Hein? Entre autres, à l'automne, quand c'est le temps des pommes, là, il y en a plein, puis les pommes sont pas chères. Acheter beaucoup de pommes. Là, tu te dis, ouais, mais je vais les perdre, mes pommes. Je suis tanné de manger de la compote, des tartes, etc. Non, mais tu peux te faire des chips de pommes. Super simple. Tu tranches tes pommes finement à la mandoline, tu mélanges ça avec du jus de citron, tu mets du sucre, de la cannelle ou rien, là, dépendamment de tes goûts. Tu mets ça sur une plaque une heure dans le four à 250. Tu as des chips de pommes qui se conservent éternellement. Ou tu as un déshydrateur. Moi, j'ai un déshydrateur personnellement. Ça fait encore mieux, c'est moins long. Mais, wow, ça, c'est une bonne idée.
Tu dis moins long, mais c'est assez long, une opération de déshydratation.
Oui, oui. Ben, quand tu en mets beaucoup, plus tu en mets, plus c'est long. Donc, il y a quoi de normal là-dedans. La cassonade, hein? La cassonade qui durcit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait?
Demande-moi pas, parce que je vais te le dire!
Ah oui! l'idéal, hein, c'est pour la faire ramollir, hein, on faut utiliser la chaleur et l'humidité. Donc, vous pouvez la faire chauffer au micro-ondes ou simplement mettre un morceau de pain ou un morceau de pomme que vous mettez 24 heures. Après ça, vous l'enlevez et elle va être redevenue parfaitement normale.
C'est vraiment efficace et rapide.
Qui lit encore des magazines?
Mon chum.
Oui, OK. Bon, ben, je suis pas dans la bonne crowd. Mais il y a plein de monde qui lisait des magazines qui ne lisent plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos vieux racks à magazines qu'on avait sur le bord de la toilette qui ne servent plus? Bien, vous n'avez pas le panneau où vous mettez toutes vos tôles à biscuits, là, qui sont tout le temps mélangées, puis là, ça fait du bruit. Tu les mets dans ton rack à magazine, ça fait super bien que tu mets ça là-dedans. C'est propre, c'est simple, super simple. L'automne, le temps du maïs, hein? Oh, on veut faire une épluchette, on n'est pas super équipé, c'est là, on va faire bouillir, là, on va faire deux, trois batchs. Non, quelque chose de super simple. Tu prends un col, là, une glacière, OK? Tu l'ouvres, tu la remplis de maïs, tu remplis ça avec des bouilloires d'eau bouillante, tu refermes ça 30 minutes. Ah. Après ça, tu rouvres le bas, tu laisses l'eau écouler, le maïs va rester chaud et cuit. Il va rester chaud pendant 2 heures et il va être cuit.
Wow. Tu m'amènes, c'est pas le fun,
non,
ça.
Non, faire du bacon. Tu sais, tu fais du bacon, ça pète, là, ça te revole dans la face d'un œil, etc. C'est pas trippant. Ce que tu fais, tu mets un quart de tasse d'eau dans ton plat. Ah ouais, ouais, ouais. Là, vous dites, ben voyons donc. Ça a l'air étrange, mais ça marche. L'eau empêche la graisse de gicler. Puis une fois qu'elle est évaporée, on obtient du bacon extra croustillant.
Wow. Moi,
oui. Comment éplucher et hacher un oignon sans pleurer? Super simple. Tu mets l'oignon au congélateur 10-15 minutes avant de le trancher et voilà, c'est réglé. Si tu veux nettoyer efficacement des fruits, on en parlait dans une autre émission, comment il faut avoir de la cochonnerie sur les pots de fruits. Hein, tu mets dans un récipient d'eau avec une tasse de vinaigre, tu les laisses 10 minutes là-dedans, tu rinces, tout est beau. Savez-vous qu'on peut faire cuire des chips, au micro-ondes? Intéressant. Tu tranches tes patates. Avec ta mandoline, hein, ça fait des petits morceaux.
Tu mets
ça dans du papier parchemin avec un petit peu d'huile. Tu mets ça 5 minutes au micro-ondes avec ton assaisonnement préféré. C'est magique. Du céleri mou, tu sais, du vieux céleri mou. Là. C'est qu'on fait avec ça à part de la soupe. Hein, t'as le goût de croquer du céleri, de faire de quoi. Super simple. T'es plonges dans l'eau froide et tu le redonnes vie. On peut ressusciter un céleri mou. bouteille de ketchup. T'sais, on a des bouteilles de ketchup. Là. Là, après ça, on recycle ça. Non, gardez-la, c'est extraordinaire. Tu fais ta pâte à crêpes là-dedans, ta pâte à pancake, tes affaires. Tu peux te faire des raclettes de déjeuner. Tu mets ça, c'est super simple. Ça se conserve quelques jours là-dedans. C'est extraordinaire. Enlever la peau des tomates. Oh, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait?
Je vais te le dire, mais je te le dis.
Tu me diras pas. Tu les plonges dans l'eau bouillante, tu les sors de l'eau bouillante, tu les mets dans l'eau glacée, puis le choc thermique fait que la peau s'en va presque tout seul après ça.
Ah
ça
oui,
ça s'enlève, mon Dieu, comme un ongle rongé. tu sais plus quoi faire avec tes boîtes d'œufs et tes coquilles d'œufs. Qu'est-ce qu'on fait? Tu gardes ta boîte d'œufs, tu laisses tes demi-coquilles d'œufs, si tu les as pas compostées, dedans. Tu mets de la terre et tes semis. C'est super nourrissant. Tu peux faire pousser des plantes au printemps. Tu peux tout partir tes semis chez vous, sur le bord de la fenêtre. Mmh. Ça marche excessivement bien. Peler l'ail. Tu sais, là, tu enlèves ça, puis là, tu pues des doigts. Qu'est-ce qu'on fait pour peler l'ail? C'est super simple. Hein? On coupe la queue. Après ça, on la met dans un sac en plastique, puis on brosse le sac.
Puis si tes doigts puent un peu, là, tu le frottes sur le bord du lavabo.
Ouais.
Sur le, ça passe sur l'inox. Non, mais sur l'inox, c'est pas
l'odeur,
oui,
ça va?
Oui,
ouais, en tout cas. Faire pousser des échalotes, des oignons verts, super simple. Hein? Quand tu coupes ta tête, là, ta coupe un peu plus longue, tu la mets dans l'eau et ils vont repousser. Fait qu'un pack d'échalotes, tu peux faire facilement 10 packs d'échalotes si tu es patient. Super simple, super simple, ça marche. Débarrasser des mouches à fruits, hein? Tu vois, des mouches à fruits, c'est dégueulasse. Il y a plein qui ont des techniques. La plus efficace, selon ce que j'ai trouvé, c'est de mettre un petit pot avec un fond de vinaigre de cidre et quelques gouttes de savon à vaisselle. Ça va régler ton problème de mouches à fruits jusqu'à ce que tu rajoutes des fruits.
Pourquoi?
C'est complexe. Je pourrais te l'expliquer facilement, mais j'aurais peur de tous vous perdre.
En fait, on est attiré par le sucre du cidre, ouais. Puis il meurt dans le
savon. Dans le savon à vaisselle.
Ah, okay.
Et voilà.
Okay.
Complexe
c'est
de
ça.
Même.
C'est ça. Comme quand toi, tu avais le goût de boire du savon à vaisselle. Là, puis ça c'est ça, fait que explorer la cuisine, c'est fun. Il y a plein de trucs qu'on peut se donner. Hein. Puis quelque chose que j'ai appris aussi dans l'émission La table au goût du lac, c'est comment faire mes jaunes d'œufs. Tu sais, avant, j'avais de la misère avec les coquilles, là, je faisais ça. Hey, tu sacs ta main dans le plat, puis tu prends ton jaune d'œuf. C'est la manière la plus simple et simpliste. Ça marche à tous les coups. Wow! Merci encore à Johnny Guillemette qui m'a donné ce beau truc. Mélanie, maintenant, on va t'envoyer, on va te laisser nous parler
m'envoyer
de tous ces gestes qui trahissent le mensonge. Quels
sont-ils? Je vous observe. T'es confiant, tu m'en... Regarde, et tu penses que ta blonde ou ton chum... te trompe. Wow. Hein, tu veux éviter d'assumer une responsabilité parce que tu as fait quelque chose de mal ou encore tu veux dissimuler un secret embarrassant. Il y a vraiment, dans le fond, le mensonge peut être déguisé par une fausse vérité. Hein, c'est une fausse vérité devient un mensonge. Oui. Ça veut dire que j'ai dit une phrase qui se pouvait complètement
oui,
pas.
Mais
bon, c'est pas grave.
Ça paraît que t'es prof aussi.
Je suis super virée. Bon, bref, s'il peut être difficile de reconnaître le discours mensonger, les gestes peuvent parfois le trahir. J'ai trouvé des explications, en fait, d'un spécialiste du langage corporel. Ouais, exactement. Joe Navarro est un ancien agent du contre-espionnage du FBI. Rompu au décryptage des individus les plus indéchiffrables, il détaille dans son ouvrage « Ces gestes qui parlent à votre place » les différentes techniques pour comprendre les secrets du langage corporel. Il dit que c'est pas fiable à 100 %. Par contre, lui, selon tout ce qu'il a vu au niveau du FBI et des enquêtes qu'il a faites, il y a vraiment, dans le fond, il y a certains gestes effectués dans certaines situations qui peuvent vous indiquer que votre interlocuteur ne vous dit pas forcément la vérité. En voici quelques-uns. Oui, exactement. Donc, il dit qu'il est intéressant, là, tout ce que je vais dire, là, c'est tout lui qui dit ça. Okay? Je ne vais pas le nommer à chaque fois, c'est Joe Navarro qui dit ça. Donc, il est intéressant de constater que ceux qui font des fausses déclarations évitent non seulement de toucher autrui, mais aussi les objets qui sont autour d'eux. Souvent, il dit qu'il n'a jamais vu ni entendu personne mentir en affirmant avec force « je n'ai rien fait » en faisant quelque chose. Non, au contraire, il va dire que les personnes sont plutôt discrets. Ils ont des gestes discrets. Les menteurs ne s'impliquent pas et ils n'ont pas nécessairement, comme ils n'ont pas confiance en ce qu'ils disent, en ce qu'ils vont dire, ils ne vont pas s'impliquer au niveau du corps et des objets autour d'eux. Donc, même si le cerveau pensant, le néocortex, choisit des mots à prononcer pour tromper le public, le cerveau émotif, lui, le système limbique, qui est la partie honnête du cerveau, il n'est pas impliqué dans la ruse. Il ne va donc pas mettre en valeur les fausses déclarations. C'est fin, hein? Le système limbique est gentil. Bien qu'on est bien fait, ou pas. En tout cas, ça dépend. Donc, le sentiment du cerveau limbique va être difficile à neutraliser. T'sais, essayez de sourire sincèrement à quelqu'un que vous n'aimez pas, profondément. Là. C'est difficile, vous n'arriverez pas. Pas vrai, j'ai essayé de sourire. Pierre. Non, mais c'est vrai. T'sais, quand tu arrives face à quelqu'un, tu dis « mon Dieu, faut pas que ça apparaisse, faut pas que ça apparaisse. » Ça apparaît tout le temps, on va toujours s'en rendre compte. Puis souvent, on s'en rend compte quand on connaît vraiment bien la personne avec qui on est qui ne veut pas que ça apparaisse, justement. Donc, l'attitude de supplication. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un... C'est quoi le premier geste, mettons, qui vient... On est dans une église qui est désacralisée. Donc, c'est quoi quand on implore Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà! Les paumes en l'air, OK? Ça, il faut regarder ça. Lui, il dit que quand on a les bras tendus devant soi, les paumes tournées vers le ciel, c'est une manifestation de supplication. Donc, les croyants tournent les paumes vers Dieu pour demander grâce. Même les soldats capturés vont lever je lève les mains en l'air. Donc, ce comportement apparaît aussi chez ceux qui émettent une affirmation qui veulent que vous les croyez. Je te le dis, c'est vrai. C'est vraiment vrai. On a tendance à lever
c'est moi,
les mains. C'est moi, c'est ça. Donc, quand il fait une déclaration qui est fausse, vérifie si les paumes sont tournées vers le haut ou tournées vers le bas. Pendant une conversation ordinaire, au cours de laquelle les idées sont échangées et qu'aucune partie ne défend, ben on n'aura pas tendance à lever les paumes comme ça en disant « ben je te le dis que c'est pas moi. Je te le dis, c'est pas moi. » Au contraire, si une personne fait une déclaration qui est passionnée puis qu'il y a de l'assurance puis qu'il dit « vous devez me croire, je n'ai rien fait. » En plus, il touche la table et il y a les mains par en bas qui est très calme. Souvent, cette personne-là est sincère et honnête.
C'est le fun, ça peut donner plein de trucs pour mentir.
Exactement. Ben oui, c'est ça le truc. Faut comprendre pour maîtriser. Donc, une autre... Donc, quand t'es confiante et détendue, t'as tendance à t'étaler, tu sais, t'as confiance en toi, tout va bien. Donc, dans les cas extrêmes, les gens perturbés vont se recroqueviller, hein, plus vers l'intérieur, en serrant les bras, les jambes sur leur corps, les chevilles vont se fermer à l'autre. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils mentent nécessairement, ça peut aussi démontrer un malaise. Par contre, les conversations pénibles, pendant les conversations pénibles, parce que c'est pénible mentir, on va se le dire, là. C'est pas là. Mais vous êtes-tu bien avec le mensonge? Moi, je suis atroce. Il y en a qui sont bons menteurs. Pas pour des grosses affaires, les gars. Je vous cuisine pas, là.
Pour mentir, pour faire des mauvais coups.
Oui, ça, j'adore ça.
Mais c'est des mensonges.
Puis je suis bonne là-dedans, en plus. Mais oui, moi aussi, ça, j'adore ça. Mais ma mère, par exemple, là, qu'elle est nulle. Elle est nulle. C'est tout ça à le faire. Donc, quand on se fait... C'est ça. Soyez plus particulièrement attentifs aux changements importants de la position du corps. Ouvert, fermé, confiance, fermé, ou que la personne perd confiance un peu. Une personne malhonnête qui va mentir va inconsciemment avoir tendance à se voûter, à s'enfoncer dans son siège, à lever les épaules, à faire les épaules, beaucoup. Ils disent que, il va se défendre, il va vouloir comme... C'est comme excusez pour le micro. C'est comme l'effet de la tortue, hein, vouloir rentrer sa tête vers l'intérieur. Aussi, les gens mal à l'aise, qui vont manquer de confiance en eux, la tête. Sinon, arrêtez un peu. Je pense que j'ai tout dit déjà. Je sais pas non plus. Mon Dieu.
Est-ce qu'elle ment présentement?
Non, je mens pas. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je vous le dis. J'ai vraiment tout dit. Je ne sais pas de quoi vous parlez, les gars. J'ai aucune idée.
C'est particulier.
Mais
aussi.
Bref, moi. Ouais.
Parce qu'on le voit, là, vraiment, quand tu dis un peu la synergologie, là, il y a tellement de choses où, des fois, que les gens vont dire quelque chose et leur corps va nous indiquer complètement.
Vraiment. Ils disent aussi que quand l'œil a tendance à chercher vers la gauche comme ça, vers la gauche, quelqu'un qui va chercher habituellement une vraie information va le chercher au niveau plus au niveau droit. Sinon, si ça va vers la gauche, c'est qu'il cherche une réponse qu'il ne connaît pas. Ah. C'est ce qu'on dit. C'est qu'il cherche vraiment quoi dire. Quelqu'un qui sait une information va faire ça va regarder plus vers le bas. Ah, OK, c'est ça. Quelqu'un qui cherche comme ça, c'est qu'il cherche d'autres choses. Il cherche à mentir. Mais la synergologie, c'est tellement intéressant. Moi, j'aurais aimé ça, faire ce métier-là.
Moi, je l'enseigne un peu là, au cégep. Ouais. Puis c'est fascinant parce qu'il y a 60% de l'information qu'on est capable d'aller chercher là-dessus. Puis si ce que tu dis va à l'encontre de ce que ton corps est en train de nous dire, il faut se fier à notre corps. Il faut se fier au corps, non pas à ce qu'on dit.
Ah oui, il faut vraiment se fier au corps parce que le non-verbal, c'est tellement fort. Puis comme il dit, lui, il expliquait, là, c'est sûr que... Oui, c'est sûr que lui, il est allé, ça, c'est très, très... C'est très vulgarisé en très peu de pages. La synagogie, c'est plus gros que ça. Sauf qu'il dit, c'est quand même l'observation... Ça ne veut pas dire qu'il ment, il peut avoir un malaise. Ce n'est pas nécessairement un mensonge, mais le corps parle beaucoup de lui-même en soi. Oui, le malaise. Le cerveau s'exprime par le corps.
Merci, Mélanie.
Mais ça me fait plaisir.
C'est très, très, très chouette de savoir tout ça. Moi, maintenant, je sais qu'en pandémie, c'est l'heure de mon top 10. Hein?
Oui.
Puis on sait qu'en pandémie, bien, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Hey, on est en train de devenir alcoolique. On dirait que tous les soirs, on veut prendre une bière, on veut se détendre, on ne sait plus quoi faire, on change de quoi. » Bien, je comprends parce que je dois... Plaider coupable, je lève la main et dire...
Moi, j'ai arrêté de prendre l'alcool la semaine. J'ai arrêté.
Mais en tout cas, moi, j'avais bien de la misère parce que je me disais, Fait que là, je veux juste vous dire, si vous décidez d'arrêter de prendre de l'alcool, il y a 10 effets qui vont se passer dans votre corps qui sont intéressants. Premièrement, au bout de 4 semaines, tu vas faire moins de cholestérol. Ça, c'est démontré. Le cholestérol, c'est le mauvais gras, la cellulite dans tes artères, etc. Le taux de cholestérol dû à ta consommation d'alcool peut vite baisser dès que tu offres une petite période d'abstinence. Ça, c'est intéressant. Ben oui, ça aide. Tu vas mieux dormir.
Oui.
Ben oui, parce qu'on a la mauvaise idée que se coucher un peu sous, là, va bien dormir. Non, au contraire. Tu t'endors beaucoup plus rapidement, ça va, mais tu vas avoir un sommeil agité. Tu vas ronfler, apnée du sommeil. Tu vas réduire la durée de ton sommeil paradoxal. Donc, c'est vraiment pas bon pour le sommeil.
L'alcool. Je savais pas ça, moi.
Ouais. Tu vas perdre du poids. Hein? T'en as besoin, d'ailleurs. Hein? T'es mec comme un piquette.
Hey!
parce que, logiquement, ça fait baisser ton taux de cholestérol, ça fait baisser ton taux de glucides et ça te fait moins manger. Parce que, on va le voir plus tard, mais tu vas avoir moins faim. Donc, clairement, tu vas être plus en santé et tu vas perdre du poids. Donc, situation simple. Puis, la bière, c'est quand même lourd. On va se le dire. Tu vas avoir une plus belle peau, Mélanie. Aussi, tu vas avoir une plus belle peau. Hein? Pourquoi tu vas avoir une plus belle peau? C'est que l'alcool, ça dilate les capillaires cutanés qui ont tendance à rendre la peau légèrement rosée. Donc, plus tu bois, plus cette teinte violette finit par rester. C'est pour ça que les gens alcooliques, là, quand on parle d'un nez d'alcoolique là, avec tout veineux, là, etc. Donc, ta santé globale va être moins dégueulasse. Hein? Parce que moins boire d'alcool, ça réduit considérablement les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de rhumatisme, de calculs rénaux. Et aussi, ça va aider ton foie à vivre plus longtemps. Tu vas être moins glouton, j'en parlais tantôt, mais l'alcool, ça nous fait manger 30% plus. Donc, les petits snacks de fin de soirée, etc. Hein, les tripes bouffe. Ton taux de glucose va être stabilisé, donc ton taux de sucre dans ton sang. Donc ça aussi, ça va être extraordinaire, ça va t'aider. Tu vas être moins déprimé. On a l'impression que l'alcool, c'est euphorisant.
Mais je pense que non.
Au contraire, on a tendance à se morfondre dans l'alcool quand on a un coup de déprime. Et là, en pandémie, c'est un peu dangereux. On parle beaucoup de santé mentale, mais ça peut pas aider, en fait. Quand on s'éloigne de l'alcool, on s'éloigne de la déprime. C'est dû au mélange de choses qui dépendent de chaque consommateur dans sa consommation d'alcool, peut augmenter le stress et t'empêcher de bien gérer tes émotions. Donc, l'abstinence d'alcool devrait te permettre d'être un peu mieux dans ton corps et dans ta tête. Tu auras aussi une meilleure concentration. Ben oui, c'est un peu normal, hein?
Ben oui.
Parce que quand tu te lèves, là, parce que tu t'es sifflé deux bouteilles de vin la veille, ben c'est sûr que c'est pas super. En plus, l'alcool altère ta capacité à mémoriser sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Donc, forcément, tes neurones vont mieux se porter. Et finalement, les effets positifs de l'abstinence à l'alcool, ça se ressent au bout de 2 jours seulement. Ah oui.
En donc, partir d'une grande consommation d'alcool ou d'un verre ou deux par soir, mettons?
Bien, ce qu'il faut, je l'avais l'information, là, quand on parle d'alcoolisme, hein, c'est une habitude, OK?
Ouais,
on commence à être considéré comme alcoolique quand on consomme plus de 2 verres par jour chez la femme et 3 verres chez l'homme. Donc, une petite bière en apéro, une fois par jour, c'est pas considéré comme
c'est
alcoolique.
Ça.
Mais c'est souvent, ah, ben, on va prendre un petit verre demain, on va prendre un petit shooter, ah, ben, on finit-tu la bouteille de vin?
Non, ben, là, c'est... oui, c'est vrai.
Fait que. Ça ne m'a pas convaincu. Je vais continuer à boire de l'alcool, mais ça allume une petite lumière. On va faire plus attention, consommer moins.
Pour ma part, plus facile de dire je vais prendre 3 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, où je ne prendrai pas d'alcool et garder le jeudi ou dimanche.
Moi,
que
je
de
garde
dire
vendredi, samedi,
je
ouais.
fais. Ben, exactement. Plutôt que dire je fais 4 semaines d'abstinence.
Non, exact. Non, mais ça, c'est encore mieux parce
final,
que l'idée d'une bonne habitude, c'est de la conserver dans le temps et pas donner un coup de barre, puis après ça, reprendre ses mauvaises.
Exactement.
Merci Francis pour ce commentaire éclairant. Merci Mélanie. Merci à vous d'être là. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'Inepsie. Merci. Bonne semaine.
Moi.
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 Moi. Je travaille
en français.
Moi.
Je travaille
en français.
Moi.
Je travaille
en français.
Moi.
Je travaille
en français.
Moi. Je travaille en français.
Moi.